Donc les deux parties de mon titre ainsi que le contenu sont adaptés de concepts développés par le psychanalyste et pédiatre britannique Donald Woods Winnicott, spécialiste du développement des enfants et des rapports mère-enfant. Pour mieux exprimer le lien asyndétique des deux parties de mon titre, je propose l'équivalence suivante. Une ville dite suffisamment bonne est celle qui donnerait le pouvoir de l'aimer sans pitié. Ce qui est, comme vous allez voir, une étape nécessaire pour développer un amour mûr pour cette ville. Comme on le verra tout à l'heure, des chercheurs ont déjà rapproché l'espace de la ville à ce que Winnicott appelait l'espace potentiel ou le lieu de l'expérience culturelle. À l'origine, cet espace est celui qui s'ouvre entre l'enfant et l'environnement dit maternant, c'est-à-dire la mère ou d'autres personnes, dans les environs de l'enfant, où l'enfant manipule les fameux objets transitionnels qui sont à la fois lui et non lui, et qui servent à le mettre en contact éventuel avec la réalité externe. De cet espace naît le jeu, l'usage des symboles et l'introduction aux traditions héritées, la culture. La ville agit comme cet espace, mais aussi comme objet d'amour elle-même, donnant lieu à de la créativité en collaboration avec cet espace même. Cependant, bien que ces termes de jeu, de collaboration et de culture semblent présager une relation totalement positive, on ne peut pas les contempler sans rendre compte de la destruction et même de la haine qui doivent survenir lors de ce processus de maturation. C'est là où intervient cet essai. Puisons dans l'œuvre de Winnicott les outils nécessaires pour faire aimer la ville et pour rendre aux habitants leur capacité de créer, de jouer, de jouir de leur occupation de cet espace. Mon exposé procédera alors selon trois axes. D'abord, j'exposerai les concepts fondamentaux de la pensée de Winnicott en ce qui concerne le développement de l'enfant et de son environnement. Ensuite, je parlerai de comment ces idées s'appliquent à la ville et des entraves qui peuvent survenir pendant ce processus en ce qui concerne la ville et le travail, excusez-moi, et le travail des chercheurs en sciences sociales qui se sont déjà adressés à cette question. Et finalement, je discuterai de la possibilité d'une ville qui, tout en reconnaissant la colère et même la haine que la destruction effectuée par des citoyens en voie de maturation provoquerait, doit être capable d'absorber cette violence en la contenant, en la survivant, sans contre-attaque. Qu'est-ce qui deviendrait possible à travers la création d'une telle ville? Alors, première partie. Winnicott est peut-être le mieux connu pour son concept de l'objet transitionnel, un objet qui fait partie de la transformation de l'enfant, de l'être sans limite qui s'attribue des capacités omnipotentes, en un sujet aux frontières bien dessinées qui perçoit d'autres êtres dans le monde et reconnaît et leur autonomie et ses propres limites. L'objet transitionnel est considéré à la fois moi, comme à la fois moi et non moi, à la fois créé et découvert. Et l'idée du paradoxe de cet objet est essentielle chez Winnicott. En incarnant ces paradoxes, il facilite le contact avec le monde extérieur et donc le désillusionnement du bébé avec l'omnipotence primaire qu'il expérimente dans la matrice et, idéalement, pendant les premiers jours de sa vie, lorsque sa mère anticipe et s'adapte plus ou moins parfaitement à ses besoins, dans une situation idéale, cela va sans dire. Au début, ce processus de désillusionnement est facilité par la mère qui ne s'adapte pas parfaitement à ses besoins, mais de manière plutôt suffisamment bonne. C'est la mère ou la figure maternelle qui arrête à un certain point de maintenir l'illusion d'omnipotence en répondant immédiatement aux tout besoins ou désirs de l'enfant. Elle commence à le sévrer du sein, mais aussi de l'accomplissement immédiat de ses autres désirs, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la nécessité de différer sa satisfaction et reconnaître l'existence autonome d'autrui. Elle donne, elle protège, mais en même temps ne donne pas tout. ainsi permettant à son enfant de développer de l'indépendance à son égard, malgré un attachement durable, caractéristique que nous serions contents de voir chez le citadin. Cette transition doit non seulement être graduelle au début, pour ne pas rompre totalement l'attachement ressenti par l'enfant à son environnement, mais il faut que cela se passe sans représailles pour les dommages causés par l'enfant en testant le monde alentour. Avant de reconnaître l'indépendance de cet environnement maternant, l'enfant exerce contre lui ce que Winnicott appelle « l'amour sans pitié », qui essaie de s'approprier l'objet ou l'environnement, même de le détruire par son enthousiasme, sans se soucier de son existence à lui. Pour arriver à une reconnaissance de l'indépendance de cet objet ou environnement avec lequel il pactisera éventuellement, l'objet ne doit pas seulement survivre, mais ne point faire de représailles. La fonction de protéger l'enfant consiste donc non seulement à le protéger des dangers extérieurs, mais à le protéger des résultats dangereux de sa propre colère. Cette transition est non simplement une étape de l'enfance, par contre, mais plutôt un mode d'interaction constamment repris tout au long de la vie. Quand le sujet rencontre de nouveaux objets et leur réalité indépendante est vérifiée, bien que le processus s'accélère et l'être humain arrive à accepter une certaine mesure de contre-attaque lorsqu'il arrive à reconnaître l'échelle de l'autonomie dans le monde extérieur. Donc, nous sommes tous, dans une certaine mesure, des enfants qui vivent ce processus. L'espace où l'on rencontre et expérimente l'objet transitionnel est ce que Winnicott a appelé à l'origine l'ère intermédiaire. Celui-ci serait théorisé plus tard dans son œuvre comme l'ère potentielle, l'ère du jeu ou et de l'expérience culturelle. Je cite, nous supposons ici que l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors. Nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l'existence d'une ère intermédiaire d'expérience. Elle subsistera tout au long de la vie dans le mode d'expérimentation interne qui caractérise les arts, la religion, la vie imaginaire et le travail scientifique créatif. Fin de citation. La créativité dépasse le seul fantasme et peut arriver uniquement avec l'interaction avec le monde, et cette créativité va bien au-delà du jeu d'enfant aux créations culturelles partagées que nous appelons les domaines de l'art et de la religion parmi plusieurs d'autres. Le travail créatif a lieu uniquement à cette jointure des mondes intérieurs et extérieurs où, de fait, la majorité de notre expérience va avoir lieu si nous avons la chance d'arriver à une maturité saine. La prolongation de l'espace potentiel tout au long de la vie de l'individu nous permet d'élargir l'environnement pertinent au développement de l'individu et de sa capacité pour les relations d'objets, donc au-delà de l'unité familiale et du développement juvénile, à la sphère sociale plus large. Winnicott lui-même admet la possibilité que le monde en général soit accepté comme partie du développement de l'espace potentiel autant que l'est la famille immédiate. Et ceci se voit le plus clairement, par exemple, dans son étude du rôle des écoles et d'autres groupements considérés comme des extensions de la famille, en même temps qu'ils permettent le dégagement des modèles familiaux. Dans le commentaire « Concept actuel du développement de l'adolescent, leurs conséquences quant à l'éducation ». Et ces autres groupements ont été entendus comme faisant référence à la ville par certains chercheurs, et notamment par Annette Kuhn, théoricienne des médias et fondatrice du projet T-PACE, Transitional Phenomena and Creative Experiences, à Queen Mary University de Londres. Kuhn, au lieu de voir la ville comme le contenant des rencontres avec des objets, prend des aspects de la ville elle-même comme espace potentiel structuré par la possibilité d'un retour à la maison. Je cite, la maison home, figurant soit comme réel, soit comme symbole, peut fonctionner comme une sorte de serre-livre, une limite ou un cadre pour l'activité d'espace potentiel. À l'intérieur de ce cadre, la négociation de l'individu avec le nouveau, l'étranger, peut avoir lieu en sûreté. Un de plusieurs paradoxes facilitateurs dans la pensée de Winnicott est l'idée que les limites et les cadres ont un rôle essentiel à jouer dans la dynamique intérieure-extérieure. Et avec ces études, Kuhn fait référence explicite aussi aux pratiques spatiales de la ville identifiées par Michel de Certeau. Et de Certeau, dont l'invention du quotidien, Art de faire, parle de la pratique physique et mentale de la vie urbaine et des possibilités créatrices de détourner la ville de ses fonctions planifiées. Ce mouvement à travers la ville est aussi reconnu comme analogue au développement de l'enfant et de sa première rencontre et négociation de l'espace non-moi, bien que son point de repère soit Lacan au lieu de Winnicott. Je cite Certeau, ce qui importe dans ce jeu initiateur comme l'affairement jubilatoire de l'enfant qui, devant le miroir, se reconnaît un, c'est lui, totalisable, c'est le procès de cette captation spatiale qui inscrit le passage à l'autre comme la loi de l'être et celle du lieu. Pratiquer l'espace, c'est donc répéter l'expérience jubilatoire et silencieuse de l'enfance. Et l'usage du mot jubilatoire ici est approprié comme la rencontre avec le monde a lieu dans les premiers mouvements exubérants de l'enfant. Et tout ce discours du jeu et de la joie dans le contact avec l'environnement peut paraître assez utopique en ce que la ville comme lieu de développement peut devenir un endroit d'exploration et de création, de collaboration dans la création de l'expérience culturelle avec autrui dans l'espace potentiel. Il est cependant nécessaire de considérer que l'environnement physique de la ville, ainsi que les privations qui peuvent être présentes à la maison. Et c'est sur ces derniers problèmes, l'environnement physique et la privation économique et matérielle, qu'ont focalisé les recherches en sciences sociales qui montrent de l'influence de la pensée de Winnicott ces dernières années, surtout en Italie et au Brésil. Ces chercheurs sont concentrés en grande partie sur les privations économiques et familiales à la maison, au Brésil, par leurs observations de jeunes dans les quartiers défavorisés et leurs jeux et leur narration, avec pour conclusion l'idée que les enfants, absents des empiètements graves, trouveraient toujours un moyen de jouer, de créer en collaboration avec le monde extérieur, malgré l'inaccessibilité des espaces destinés spécifiquement à cet usage. Les recherches en Italie se sont concentrées sur l'optimisation de l'espace physique pour les enfants d'une manière qui rappelle les principes de la conception universelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas la conception universelle, c'est l'idée de amoindrir toute barrière à l'accès pour un tout niveau de capacité, c'est-à-dire les handicapés, les enfants, les personnes âgées, etc. Donc un niveau de base pour que tout le monde ait accès à cet espace. Et non pour pas adapter l'espace aux handicaps particuliers. La conclusion générale de ces études semble soutenir l'idée proposée de la Città dei Bambini, un espace qui, au lieu d'être destiné exclusivement aux enfants, est accessible à tous, indépendamment de leur âge et de leurs conditions. Les exigences d'un tel espace, qui optimiserait le développement potentiel des enfants, et en fait de l'usage de toute personne, seraient, selon le modèle de cette Città dei Bambini, la sécurité, la socialisation, l'autonomie, l'apprentissage, exploration, connaissance, l'imagination, créativité, et la proximité de l'environnement naturel. Il faut cependant regarder au-delà des obstacles et même des dangers qui peuvent être présentés par l'environnement physique et par la privation, aussi bien que la joie et la jubilation physique qu'on peut expérimenter même en présence de telles privations. Il y a d'autres pièges graves dans le processus qui mènent à la reconnaissance de l'autonomie des autres acteurs pour que le sujet en voie de maturation arrive au point d'être capable de contribuer à cet espace. Des pièges qui mettent en danger le développement continu d'une relation affective à la ville. Et je souligne ici que la ville, dans le sens que je l'entends, comprend l'espace physique et ses occupants. Donc, c'est l'apparition d'une sorte de destruction primaire, avant toute haine et même toute agression véritable, que Winnicott caractériserait alors comme l'amour sans pitié, qui entre en jeu après la première rencontre ou relation à un objet animé ou non, et les contre-attaques qu'une telle destruction pourrait provoquer. Donc, je cite Winnicott, « Entre le mode de relation et l'utilisation, c'est la place assignée par le sujet à l'objet en dehors de l'ère du contrôle omnipotent de celui-ci, à savoir la perception que le sujet a de l'objet en tant que phénomène extérieur et non comme entité projective. En fait, la reconnaissance de celui-ci comme d'une entité de plein droit. Il découvrirait qu'au sujet qui se relie à l'objet succède le sujet qui détruit l'objet en tant qu'il devient extérieur. Ensuite, peut intervenir l'objet qui survit à la destruction par le sujet. Et le sujet dit « Et l'objet, je t'ai détruit. Je t'aime. Tu comptes pour moi parce que tu survis à ma destruction de toi. » Fin de citation. Et je veux souligner le suivant. Que la destruction qu'inflige l'enfant sujet citoyen n'est pas hostile, mais plutôt antérieure à la reconnaissance que l'objet ou l'autre est hors de son propre sens d'omnipotence primaire. Elle est intrinsèque à son mouvement vers des relations d'objets mûrs. Il n'y a rien moins que la restriction de l'exercice de la motilité émergente de l'enfant qui puisse entraver cette tentative joyeuse de manipuler, d'incorporer et donc de détruire des choses dans le monde extérieur. Ce n'est ni forcément une réaction à une privation, ni une tentative consciente et malicieuse de détruire les objets et personnes que l'enfant aurait reconnus comme séparés et autonomes. Et il n'est pas non plus sans importance que Winnicott a caractérisé les interactions post-destruction comme une adresse par l'enfant à l'objet. Avec son « et l'objet », il reconnaît que l'objet atteint le statut d'un père dans un dialogue, que l'enfant le voit comme un égal autonome pour la première fois suite à sa survie. Ce qui plus est, le sujet dit « je t'aime ». Il a, à travers cet état survécu, développé un rapport affectif avec un être indépendant en tant que tel. Cette relation aurait dégénéré si l'objet s'était vengé, ce qui pourrait avoir pour résultat des dommages permanents ou deviendrait en revanche positive et aimante si l'objet obtenait la position dite dépressive du développement. Et malgré son nom Mossad, celui-ci est en fait l'étape mûre du développement où le sujet se rend compte du mal que ses actions peuvent infliger et essaie de faire des réparations, où on contribue à la production de cet espace culturel entre les êtres autonomes et commence à en prendre soin. C'est une relation alors à la fois affective et éthique. Et voilà que la deuxième mise en garde exposée par Winnicott entre en jeu. Cette expérience dépend de la capacité qu'a l'objet de survivre. Dans ce contexte, survivre signifie ne pas appliquer de représailles aussi. Et la question se pose alors, comment la ville peut-elle faciliter un processus de maturation sain de ses habitants? Un qui comprendrait la suscitation de cet amour mûr pour la ville comme objet qui aurait survécu à la destruction. Que veut dire pour une ville survivre sans faire de représailles contre la violence inhérente du processus de maturation? Et alors j'arrive à la troisième partie de mon exposé. Winnicott lui-même n'était pas naïf en ce qui concerne les relations d'un tel amour sans pitié. Quant à l'amour sans pitié pourrait provoquer chez les objets ainsi attaqués. En ce qui concerne les attaques et dommages ou représailles possibles de la part de l'environnement physique et construit, cela est la partie relativement simple, entre guillemets, de l'aménagement de la ville en espace potentiel et facilitateur, malgré des défis évidents, nous rappelant les recherches par rapport à la Città dei Bambini et la conception universelle. L'environnement construit ne doit pas seulement fournir un espace pour l'exploration et le jeu, y compris l'art, mais doit le faire en éliminant tout danger pour l'enfant. La construction de tels grands espaces à grande échelle serait déjà un problème logistique grave, bien sûr. À quoi ressembleraient des bâtiments et des espaces publics conformes au principe de la conception universelle dans ce sens? Ce problème logistique, cependant, est et aggravé et éclipsé par un problème humain. Aggravé en ce que la construction de ces espaces serait une entreprise énorme et exigerait un prix prohibitif, quel gouvernement donnerait son accord de financer un tel programme d'infrastructure? Mais le problème humain s'enracine en partie aussi dans la relation affective que ces gens, qui seraient responsables, auraient eux-mêmes développé à l'égard de la structure physique de la ville, aussi bien que dans la relation entre eux et les citoyens grandissants. Ayant développé eux-mêmes comme des gens matures dans cet espace, l'on suppose, et ayant une fois eux-mêmes dit à la ville « je t'aime », comme il était une fois elle avait survécu à leurs propres attaques, il pourrait être difficile pour eux de voir détruites ou remplacer ces structures pour l'existence desquelles ils auraient nourri une vraie affection. De plus, ces gens, les habitants de la ville, font bien sûr partie de l'environnement dans sa totalité, qui recevra la force de l'amour sans pitié du sujet en voie de maturation, ce qui n'est pas une position facile à occuper. Au-delà de son travail sur la créativité et sur les étapes du développement de l'enfant, une des contributions majeures de Winnicott à la théorie psychanalytique était, comme vous avez vu, la reconnaissance du rôle central que la haine joue dans nos rapports à autrui, sans pour autant attribuer de jugement moral à cette émotion. Les deux relations sur lesquelles il se concentrait particulièrement à cet égard étaient la paire mère-enfant, qui se trouvait reproduite dans celle de l'analyste et son analysant, et comme nous allons voir dans la relation citoyen mature et citoyen naissant. Il a décrit avec beaucoup de candeur la haine que le bébé et le patient pourraient provoquer chez le parent et le thérapeute respectivement. La destructivité de l'amour sans pitié explorateur est une des raisons qu'une mère haïrait son bébé. Il y a toute une liste de raisons pour cela. Je peux expliquer pendant les questions. Pas nécessairement de façon permanente, mais assez pour risquer des représailles. Le même est vrai pour le médecin lors du traitement d'un enfant ou d'un patient sévèrement régressé. La mère et l'analyste, comme les habitants adultes d'une ville, n'ont pas la même liberté d'exprimer leurs impulsions destructrices qu'à l'enfant. Cela, comme facilitateur de l'espace potentiel, a le rôle et l'obligation de ne pas se venger. Nous pouvons voir la haine que provoque le bébé citoyen pendant ses explorations des limites et nous pouvons observer les résultats du libre exercice de cette haine. L'instituteur et le policier, aussi bien que le parent et le médecin, subissent les attaques du sujet émergent et, tristement, réagissent trop souvent en fonction de cela. Que faire ? Même si nous pouvions créer un espace physique capable d'absorber et de survivre les impulsions destructrices du sujet grandissant, comment pourrions-nous le protéger des représailles nées de la haine parmi les occupants de cette ville? Il n'y a évidemment pas de réponse facile à cette question, bien qu'il ait une réponse simple. Dans toutes ces relations, le premier pas à faire est la reconnaissance de la haine provoquée chez soi. Cela demande à la fois beaucoup de conscience de soi et de réflexion mûre, ainsi qu'une reconnaissance de l'ubiquité et de la légitimité de cette émotion et l'enlèvement de la stigmatisation morale avec cette émotion. Je termine alors très vite. Pour les actions qui en seraient inspirées, et les pas suivants dépendent de la relation elle-même. Winnicott suggère, sans beaucoup nous surprendre, du soutien thérapeutique de la mère et de l'analyste pour qu'ils puissent découvrir et exprimer, abréagir leur colère et leur haine, et identifier leur propre contre-transfert négatif. Ok, et il est vrai, et les solutions qu'il propose pour la mère et le thérapeute peuvent sembler représenter un monde idéal ou utopique par rapport à la question de les élargir à la ville en entière, où la conception universelle et la thérapie psychanalytique seraient disponibles pour tous dans la ville, situation loin de la réalité. Cependant, l'on voit ici l'indication d'un changement nécessaire d'attitude, la reconnaissance de la valeur développementale, surtout en ce qui concerne un amour, un lien affectif éventuel à la ville, de la destruction et du besoin des personnes facilitatrices de l'espace potentiel de la ville de ne pas se venger, mais de promouvoir la constance des objets et de séparer les besoins du jeune citadin en train d'établir son propre amour pour la ville de leurs propres sentiments vis-à-vis des structures physiques et sociales de la ville. Peut-être, comme Lefebvre a proposé, nous devons nous apprêter à abandonner nos présuppositions de ce à quoi la ville ressemblera à l'avenir, je cite, « à la ville éternelle, pourquoi ne pas opposer des villes éphémères et des centralités mouvantes au centre stable ?» Et donc, je termine là. J'avais une section à propos de des effets possibles d'un tel réaménagement de la ville, mais je peux laisser cela pour les questions. Merci.
Alors oui, juste quelques questions pour commencer, puis après, alors je passerai la parole à Pascal. Pareillement, il aura une vingtaine de minutes pour s'exprimer. Petite question, et après, question globale par rapport à tous les deux et pour vous tous. Voilà. Donc, petite question, oui, sur... alors, tu évoques le fait que nous sommes tous des enfants, et à quels critères reconnaîtrions-nous un adulte, selon toi, justement, dans cette ville que tu dépeins et qui est même tendant vers une ville mouvante, éphémère?
Ok. Dans ce sens, on reconnaîtrait l'adulte dans la mesure que cette personne peut accepter une certaine changement dans la ville et reconnaître que la disparition de certains objets n'égale pas en fait une blessure à la réalité en général, et en plus une personne qui peut accepter la dans une certaine mesure, bien sûr, la violence de la part d'autrui. Quelqu'un qui serait capable, et je pense que bon, c'est quelque chose que nous apprenons tous, à ne pas réagir de façon violente quand quelqu'un nous blesse. Donc, c'est, dans cette mesure, nous sommes tous des adultes, mais aussi dans la mesure que nous sommes capables d'être blessés par la disparition de quelque chose, ou dans la mesure que nous testons nous aussi la réalité des autres autour de nous, nous sommes tous des enfants.
Oui, ce que tu dis est très profond par rapport au colloque, puisque justement on va vers des mégalopoles, donc on va être de plus en plus nombreux dans des espaces de plus en plus restreints, donc on sera tous dans la haine. Mais alors cette haine que tu évoques est extrêmement impressionnante, donc est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? J'avais noté, oui, une question, oui. Est-ce vraiment cette maturation et mûrissement qui induit donc ce que tu appelles l'amour sans pitié, enfin ce que Winnicott appelle l'amour sans pitié? L'amour sans pitié, est-ce que c'est en rapport, c'est fort comme terme, comme expression, est-ce que c'est en rapport avec cette notion justement d'adultité, de maturation?
En fait, l'amour sans pitié, ça vient avant toute autre chose. Donc, c'est la première étape de vie. Quand on ne sait pas que les autres choses ont leur propre autonomie. Et donc, par exemple, quand il y a un bébé avec une peluche, par exemple, c'est l'exemple qu'a utilisé Winnicott, il va le serrer très fort, il va le déchirer parce qu'il n'a pas conscience que cette chose est autonome. Et pour une peluche, c'est pas très grave, sauf quand la peluche disparaît, l'enfant a des doutes à propos de la durabilité des objets. Mais c'est autre chose quand c'est, par exemple, le sein de la mère. Donc, quand le bébé meurt ou quand le bébé a un frère ou une sœur et frappe cette personne ou serre trop, ou quand il y a un petit enfant qui serre son frère bébé ou quelque chose. Oui, exactement. c'est le geste. Je ne sais pas, un animal de compagnie. Mais c'est pareil pour les... quand on est plus grande et on teste les limites des autres personnes, ce n'est pas forcément par malice. C'est parce que je vois... C'est parce que j'ai pas totalement... je ne me suis pas encore totalement rendu compte que de l'indépendance, l'autonomie de cette autre personne. Et donc, que je manipule cette autre personne, pour ainsi dire.
Alors, cet amour sans pitié peut déboucher sur l'amour avec pitié. Dès l'instant, on a mûri. Bon, mais ton grand oui, mais alors là, ça pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'on aime chez l'autre et qu'est-ce qui nous rend mature? Est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on aime une représentation de l'autre, une image de l'autre, une image qui nous serait donnée par la représentation dans la ville, donc ou dans la cité? Donc le lieu, le monde, nous donnerait une image de l'autre et nous, on l'absorberait comme étant la seule réalité.
C'est une énorme question, mais... je dirais que dans le sens que l'entend Winnicott, c'est l'amour de l'autre, c'est en fait ce partage, c'est cette idée de partager l'espace et de pouvoir co-créer avec les autres personnes et de la reconnaissance de la... Parce que pour moi, Winnicott, c'est très proche de Levinas, dans une certaine mesure, hein, c'est moins « tu ne tueras point », c'est plus on créerait ensemble bien que je ne te connaîtrai jamais. Je ne connaîtrai jamais... Ce qui est de l'autre côté de ce que je vois, mais je reconnais qu'il y a autre chose que je n'ai pas le droit de te détruire. C'était dans la dernière partie, mais je veux dire que c'est affectif et éthique à la fois.
Bon, alors on va clore pour Gina. Je propose à Pascal de venir s'asseoir à côté de moi. Gina prend sa place et on va travailler avec le micro de cette façon-là. Pendant encore donc une vingtaine de minutes avant de lancer des questions pour nos deux intervenants ensemble.